يا إله الكون قد أسلمت لك يا إله
Comprendre l'islam. Une émission présentée par Malika Lafer, Kamel Shekat et Saïd Boutarfa. Réalisée par Youssef Nejimi.
Amis auditeurs, bonjour, messieurs, bonjour, Kamel Shekat, Saïd Boutarfa.
Bonjour, Malika.
Aujourd'hui, nous allons parler de la mécréance. Alors, il est montré qu'en islam, il y a non seulement un aspect donc religieux, spirituel et éthique, mais aussi juridique, constitutionnel, politique, économique et culturel. Et donc, sur la base de ces aspects, le Coran, il est pratiquement viable dans les temps les plus modernes. Aujourd'hui, on va parler de mécréance. Alors, par rapport à l'islam, qu'est-ce que la mécréance, Kamel Shekat?
Pour dire les choses tout simplement, la mécréance, c'est le fait de ne pas croire en Dieu. Mais voilà, la mécréance en islam peut revêtir plusieurs définitions. Par exemple, si vous prenez un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il s'adresse à l'ensemble des compagnons vers la fin de son apostolat, il leur dit « La tarji'u ba'diya kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd » Ne redevenez pas après moi des mécréants, ou bien ne tombez pas dans la mécréance après ma mort, où certains d'entre vous décapiteraient les autres, ou bien où les uns tueraient les autres. C'est-à-dire que dans ce hadith, le prophète alayhi salatu salam nous donne une approche de la mécréance qui est tout autre que celle que nous venons d'annoncer et qui consiste tout simplement à ne pas croire en Dieu. Et c'est pour cela que certains parlent justement de kufr aqadi, c'est-à-dire une mécréance purement dogmatique, comme celle qu'on trouverait chez les gens qui se disent athées. Et puis, il y a ce que nous pouvons qualifier de kufr amali, c'est-à-dire une mécréance par l'acte. C'est-à-dire que certains d'entre nous pourraient faire certaines choses qui leur conféreraient un statut de mécréant, mais qui ne sont pas forcément des mécréants dans la mesure où ils ne croiraient pas en Dieu.
Oui, mais là, il y a aussi une question quand même qui est fondamentale qui se pose. À quel point on peut être mécréant? Est-ce que on peut l'être à 100%?
Vous savez,
parce que c'est pas aussi tranché de dire qu'on est totalement mécréant.
Si je me réfère aux propos du prophète alayhi salatu wa sallam, notamment à ce hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu chez Bukhari Muslim, où le prophète dit: kullu mawludin yuladu 'ala al-fitra fa abawahu yuhawidanha aw yumajjisanha aw yunsiranha. Chacun d'entre vous naît selon l'innéité parfaite, c'est-à-dire la nature humaine par excellence. L'homme a l'état de page blanche. Donc chacun d'entre nous naît selon cette innéité. À partir de là, tout veut dire que nous sommes programmés pour croire en Dieu si nous nous référons à tout ce qui nous entoure. Par exemple, vous prenez un buffle de 600 ou 700 kilos. Vous allez dans la campagne égyptienne ou en Inde, vous allez trouver des enfants de 4-5 ans qui vont traîner des bêtes de cette force et de cette taille par le bout du nez, alors que nous-mêmes, avec tout ce que nous pourrions avoir comme puissance, nous ne pouvons pratiquement pas amadouer ou apprivoiser un fennec. Parce que le premier type d'animaux, qui sont les bestiaux, ont été justement créés et mis au service de l'homme, selon les versets coraniques, alors que...
on dit en arabe, chacun ça réalise, disons, son...
Son programme initial. On parle d'innéité, on parle pratiquement de programme. Donc, à partir de là, si la foi s'impose à nous, qu'est-ce que la mécréance? Nous sommes sûrs actuellement que la foi existe, parce que nous allons trouver dans le monde entier des gens qui ne sont pas forcément monothéistes comme nous le sommes. D'ailleurs, les trois religions qui parlent de monothéisme n'ont pas le même type de monothéisme. Chez les juifs, vous allez trouver qu'à un moment donné de l'histoire, un certain nombre de traditions se sont greffées à la loi dite de Moïse, alayhi salam, comme par exemple le molochisme, qui est un ensemble de pratiques qui consistait à adorer Moloch, une vieille divinité de la Mésopotamie, et on donnait même en sacrifice des enfants pour cette divinité. Chez les chrétiens, Paul de Tarse va introduire la Trinité, qui part d'un principe qui est un grand mystère qui consiste à croire en un Dieu unique en trois entités, ou bien trois entités regroupées en un, qui sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous parlons d'un monothéisme pur et selon justement cette inéité. Donc, si nous partons du principe que la foi existe, qu'elle est vécue par différentes ethnies, par différents peuples, chacun selon ses croyances, qu'est-ce que la mécréance ?
Un mécréant, on le dit, ne pourra jamais jouir des lumières, de la vérité, de la sagesse. Il continuera de tâtonner et de trébucher dans les ténèbres de l'ignorance. C'est le coffre. Mais ça a été un peu galvaudé, parce qu'aujourd'hui, on dit chez nous « kofar », donc celui qui croit pas à la religion musulmane, c'est ça ?
Alors là, Malika, je pense que sur le plan de l'étymologie, il est nécessaire d'apporter une précision. Dans le cadre de l'islam et de la langue arabe, « kafara », c'est recouvrir quelque chose. Donc, dans le cas qui nous intéresse, c'est la vérité coranique, donc qui a été, disons, rejetée d'une certaine manière. On n'a pas reconnu cette vérité de la part des kofars de l'époque.
Oui, mais soyons plus pragmatiques. Oui, aujourd'hui,
mais attends. Oui, bon, par extension, c'est vrai que ce terme a pris d'autres acceptions, d'autres définitions. Mais à l'origine, on dit aussi kafir, le sillon que le laboureur fait, il met sa graine. Il la recouvre de terre,
donc couvrir,
il
ouais.
cache, il recouvre une vérité. Étymologiquement, à l'origine, c'était ça.
Et c'est pour ça qu'on appelle aussi le laboureur ou le paysan, on l'appelle le kafir.
Voilà.
Justement, on revient à l'étymologie même du terme.
Donc ce n'est pas dissimulateur.
C'est dissimulé dans le sens de cacher une graine.
C'est pas dans le sens
mais
de
c'est
négatif.
Aussi, mais c'est aussi kafir dans le sens de fellah.
Voilà. Ah, bon, il y a deux sens, mais
parce que dans l'autre sens aussi, parce qu'on récolte, on cultive l'erreur en quelque sorte.
Non, mais la question, je pense, de fond, Malika, qui aussi qui interpelle. Bon, c'est vrai que dans la sphère islamique, c'est clair, mais par rapport aux autres traditions, aux autres croyances, que ça peut être des croyances polythéistes, animistes, etc. Bon, c'est vrai que c'est un terme qui englobe un peu tout le monde, mais de manière un peu arbitraire, hein, à mon avis. Parce que bon, si on revient à cette inéité première, cette foi et cette croyance originelle, est-ce que ce patrimoine de l'inéité ne s'est pas perdu avec le temps, si Kamel ? C'est ça la question.
Quand on étudie un peu l'histoire des religions, la thèse...
En tout cas, vous n'avez pas répondu à ma question.
Laquelle ?
Lui, ça a été galvaudé, les mécréants. Ben oui, j'aimerais bien quand même qu'on
Malika,
me réponde.
C'est devenu péjoratif.
Attendez, c'est voilà. devenu, c'est bien sûr, le mot kafir désigne l'infidèle.
Donc,
mais bon... Oui, adulte, automatiquement.
Oui.
Mais cette démarche n'est pas uniquement musulmane. Parce que je discutais une fois avec des chrétiens qui me disaient « Votre religion prône l'exclusion, dans la mesure où tous ceux qui ne croient pas en votre religion sont considérés comme des koufars, des mécréants. »
Ils ont commencé d'abord eux,
Mais voilà.
Oui,
non, mais attendez, eux-mêmes qualifient ceux qui ne croient pas en Jésus en tant que fils de Dieu, d'infidèles, d'incroyants, d'incultes, d'hérétiques, etc.
Enfin, l'objet de notre discussion, c'est pas de faire le procès des religions concernant cette question, parce que est-ce que vraiment l'incroyance existe ?
C'est ça le problème.
Voilà.
Ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous savons très bien que la foi existe. Elle est vécue par différentes ethnies, de différentes manières. Cette foi, elle est là, elle est présente. Elle motive les gens à agir chacun selon ce que dicte cette foi. Elle peut engendrer des guerres, elle peut être à l'origine d'une paix, etc. Est-ce que la vraie mécréance existe ?
Normalement, est-ce que vous pouvez nous expliquer Sourat al-Kafirun ? Parce que quand on la lit, il y a plusieurs lectures évidemment, ça dépend aussi du niveau de la personne, on dit Sourat al-Kafirun. Est-ce qu'il y a deux croyances dans cette sourate ? Est-ce qu'on parle de deux dieux ?
On ne parle pas de deux dieux.
Expliquez.
Il y a eu des propositions des notables de Quraysh qui proposaient que l'on adore autant le Dieu de Mohammed alayhi salatu salam avant que ces derniers ne le reconnaissent en tant que prophète, et qu'en échange lui-même adore leur divinité.
Effectivement.
La foi parfaite exige de nous que nous soyons monothéistes, que nous n'adorions aucun autre Dieu avec Dieu.
Unicité.
Et c'est pour ça que dans le cadre de ce que dicte cette unicité de Dieu, Tawhid, le message leur a été destiné dans le sens où vous, vous avez vos croyances, vous ne croyez pas en mon Dieu, vous ne l'adorez pas, moi je n'adorerai pas vos divinités. Donc finalement cette sourate ne rend pas licite la mécréance, sourate al-Kafirun, est une réaction du prophète alayhi salatu salam face à des propositions inadmissibles.
Donc là, encore une fois, il serait bon aussi, par rapport à cette sourate, de resituer son contexte. À qui elle s'adressait ? Est-ce qu'elle s'adressait aux Quraïchites polythéistes ou à l'ensemble de l'humanité ?
À l'époque, cette sourate s'adressait aux polythéistes de Quraïch. Mais nous avons une règle qui dit « Al-ibratu bi'umumi l'afdila bi'khususis sabab », c'est-à-dire que l'enseignement, nous allons le puiser du texte et non du contexte même du verset.
Par rapport au disons, dogme religieux de l'époque, qui opposait peut-être le polythéisme à la notion du Dieu unique, c'est aussi peut-être ça l'idée première de cette sourate.
Oui, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam montrait par sa position qu'il était intransigeant et surtout qu'il n'avait aucun droit à négocier ou à marchander dans ce domaine.
C'est ça.
C'est-à-dire ou vous croyez en Dieu ou vous n'y croyez pas. La foi n'admet pas de demi-mesure et nous sommes censés adorer Dieu comme lui le veut et non comme nous le voulons nous. Mais actuellement, quand on parle de mécréance, quand on parle de kufr, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, musulmans, nous avons face à nous un certain nombre de défis. Donc, existe-t-il un kufr réel, tout comme il y a une foi réelle qui s'impose à nous, qui est palpable pratiquement ? Existe-t-il une mécréance réelle ? Certains disent que l'athéisme, le vrai athéisme, n'existe pas et n'a jamais existé. L'athéisme est finalement un athéisme pratique. Et l'athéisme pratique, c'est celui qui renie Dieu parce que Dieu est un gêneur.
Pourquoi il n'y a pas d'athéisme ? Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu.
Attention, ne croient-ils pas réellement en Dieu ou disent-ils tout simplement « je ne crois pas en Dieu » pour être déchargé de certaines obligations religieuses ou tout simplement pour être déchargé d'une éthique ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ce qu'ils veulent et quand vous venez leur faire des remarques, ils vous disent « oh, de toute manière, moi je ne crois pas en Dieu ». Ces paroles émanent-elles d'un sentiment qui est réellement vécu ? C'est ça le problème.
Oui, puis ça, seul
Dieu le sait. Seul Dieu le sait, bien entendu. Mais généralement, pratiquement pour tous les grands noms de la philosophie, on a plus ou moins pu définir ce qu'était la foi. Mais nul ne peut vous donner une définition vraiment fiable de l'athéisme, le kofr.
Oui.
Il y a peut-être Nietzsche jusqu'à un certain stade, mais pas plus. Mais généralement, la majorité de ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu ne donnent pas le bon argument.
Ça, c'est une question qui reste ouverte.
Oui, mais là, il y a un autre aspect sur lequel moi, j'aimerais rebondir. Nous qui croyons en Dieu, qu'est-ce que le kofr ? Pour un musulman, qu'est-ce que la mécréance dans l'islam même ?
Oui.
Parce que, attention...
C'était ma première question. Hein.
Oui, nous y revenons justement. Le problème est là, parce que quand vous lisez le Coran, parmi les premiers versets que vous allez lire dans Sourate al-Baqara, c'est cette animosité qui est née entre Adam et Iblis. Alors, ce sont deux cheminements très intéressants et qu'il nous faut bien prendre en considération. Adam a transgressé, par la suite il a été absous. Iblis n'a pas transgressé, il a refusé de se plier à un ordre, par orgueil. Ce qui est bien dans cette anecdote, dans cette histoire, c'est que Nous avons là deux formes de transgression, deux formes de désobéissance. L'une qui est beaucoup plus due à la nature humaine et sa faiblesse, qui est celle d'Adam, et l'autre qui émane d'un orgueil. Donc Dieu a absous la première parce qu'elle fait partie intégrante de la nature humaine et n'a pas absous la deuxième qui est celle d'Iblis, alors qu'Iblis n'était pas un mécréant quand il a été maudit. Et au moment de sortir du paradis, il a dit « Fabi'izzatik », il a juré à Dieu par sa magnificence « Je les détournerai tous ».
Moi, j'aurais voulu vous poser une dernière question, c'est-à-dire dans la culture traditionnelle, on dit que le koufar, c'est celui qui ne croit pas dans l'islam, et c'est dans la culture traditionnelle, hein, c'est pas dans les livres.
Oui.
Et donc, ça a été détourné, galvaudé. Qu'est-ce qu'on doit dire aujourd'hui à nos auditeurs à propos de la mécréance, en deux, trois mots, parce que c'est presque la fin.
Oui, non, je voulais aussi rebondir par rapport à ce qu'a dit Malika concernant celle qu'on jette la plupart du temps en direction des autres religions monothéistes.
Ah non, attention, oui.
Non, mais c'est vrai, c'est une réalité aussi, même souvent dans des prêches, on entend que les koufars... Bon, est-ce que là aussi, le rôle du musulman en tant que transmetteur du message coranique est encore d'actualité? Est-ce qu'on peut véritablement les considérer comme tels? C'est aussi...
Vous savez, on peut les considérer comme tels, et je le dis et je l'ai déjà démontré à des gens appartenant à d'autres confessions, mais de manière assez quand même posée et subtile. Le problème est que le discours doit être revu un peu, parce que c'est un mot que certains d'entre nous disent avec une facilité telle qu'on a même commencé à le dire, à se le dire entre nous. Il y a une frange qui commence à traiter la majorité des musulmans justement de koufar. Oui. Et attention là, si vous traitez quelqu'un de mécréant et qu'il s'avère en fin de compte que la personne en question n'a jamais versé dans la mécréance, c'est vous qui le devenez. Mm-hmm. Attention. Et donc, prenons exemple justement de cette anecdote d'Adam et d'Iblis. Ne voyez pas comme mécréant seulement la personne qui ne croit pas en Dieu.
On peut considérer mais le problème, c'est que ces personnes croient en Dieu. La différence est infime.
Oui,
que ça se situe.
Ils croient en Dieu, mais pas dans la même religion.
Non, je parle par exemple, on peut prendre les autres, les chrétiens ou les autres traditions. Ce n'est pas des gens qui rejettent globalement le dogme à la limite universelle. Mais pour certaines notions, bon, il y a des différences.
Ce que nous apprend l'islam, c'est que nous sommes tenus de croire en Dieu comme lui le veut et non pas comme nous le voulons, tout simplement.
Merci messieurs. Donc à la semaine prochaine, des questions restent posées, elles restent ouvertes.
D'accord.
À la prochaine, merci beaucoup.